Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. C'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Attaquant, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema.
La surprise du chef, Didier Deschamps rappelle Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid n'a plus porté le maillot des Bleus depuis 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Décryptage de ce retour surprise de Benzema dès le début de ce journal et réaction de l'un des 26 joueurs appelés pour l'Euro de football. Un café en terrasse avant de filer au cinéma. Deuxième étape demain du déconfinement. Table dépoussiérée, tireuse à bière lustrée, projecteurs rallumés, bars, restaurants et salles obscures sont fin prêts pour le tant attendu retour des clients. Une levée des restrictions qui coïncide avec une décrue importante de l'épidémie. Attention à ne pas crier victoire trop vite, préviennent les spécialistes. Dans ce journal également, Israël et le Hamas restent sourds aux appels de cesser le feu. La communauté internationale a eu tort d'ignorer ce conflit pendant trop longtemps, reconnaît le ministre français des Affaires étrangères. Au moins 8000 migrants arrivés depuis hier dans l'enclave espagnole de Ceuta, à la frontière marocaine. Madrid appelle l'armée en renfort. Et puis quand le rêve d'un milliardaire se concrétise, François Pinault ouvre samedi son musée d'art contemporain à la Bourse de commerce de Paris. La météo, elle va rester mitigée demain, même si une légère amélioration va se faire sentir sur les côtes ouest avec un peu plus de soleil, éclairci également au bord de la Méditerranée. Mais partout ailleurs, les averses vont rester très présentes, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en léger recul, moins 0,21% à 6353 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, les cafés se préparent à rouvrir leurs terrasses. Le personnel a-t-il déserté? Et c'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité Nicolas Richer, le PDG de la chaîne Columbus France. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce ne devait être qu'une formalité, tant on sait Didier Deschamps peu friand des bouleversements. Mais ce soir, le sélectionneur des Bleus nous a réservé une surprise en présentant la liste des joueurs qui vont disputer l'Euro de foot le mois prochain. Karim Benzema est donc rappelé en équipe de France, 5 ans et demi après sa dernière apparition en bleu. C'était en octobre 2015 et depuis, l'attaquant du Real Madrid était blacklisté. Là, il est listé tout court, Julien Froment. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis Didier Deschamps?
Eh bien, c'est le fruit d'une longue réflexion, d'étapes franchies une à une pour aboutir donc à cette décision que nous vous dévoilions dès ce midi. Écoutez le sélectionneur national Didier Deschamps.
Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. Okay. Une très importante où on s'est vu. On a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses. Et pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui.
Et Didier Deschamps a aussi passé, je le cite, « outre son cas personnel en référence aux accrochages verbaux entre les deux hommes en 2016 ». Karim Benzema avait déclaré au quotidien espagnol Marca que Deschamps avait, je cite, « cédé à une partie raciste de la France ». Quelques jours plus tard, le sélectionneur retrouvait sa maison de campagne en Normandie taguée. Là, ce soir, eh bien, tout semble oublié. Benzema-Deschamps, la réconciliation nationale a eu lieu et Karim Benzema a réagi sur les réseaux sociaux, tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde.
Julien, est-ce que Didier Deschamps prend un risque à rappeler Karim Benzema?
On serait tenté de dire risque zéro pour Didier Deschamps qui récupère un joueur au sommet de sa forme, 33 ans, 29 buts, 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un palmarès long comme le bras avec 4 Ligues des Champions depuis sa dernière sélection. Benzema aussi assagi, plus mature, qui a montré au Real Madrid qu'il était capable de fédérer autour de lui et qui est apprécié de la nouvelle génération. En tout cas, Didier Deschamps l'a répété à de multiples reprises, il en a ressenti le besoin, à tel point que si la liste n'avait compté que 23 joueurs, eh bien Didier Deschamps l'assure, Karim Benzema aurait été, quoi qu'il arrive, du voyage.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. La liste de Didier Deschamps contient également deux autres surprises, la sélection de Jules Koundé, défenseur du Séville FC jamais appelé auparavant, et le retour de l'attaquant de Mönchengladbach, Marcus Thuram. Pour le reste, c'est du classique, Lloris, Varane, Pogba, Giroud, Griezmann et Mbappé sont présents, tout comme Léo Dubois, le latéral de l'Olympique Lyonnais, va participer à sa toute première compétition internationale avec les Bleus. Et pour partager sa joie, c'est Europe 1 qui l'a choisi.
C'est principalement de la fierté de pouvoir représenter son pays sur une compétition internationale comme celle-ci. C'est juste énorme. C'est un rêve d'enfant qui se réalise un petit peu, parce que quand j'ai commencé le foot, voilà, j'idéalisais l'équipe de France et aujourd'hui je vais pouvoir participer à un Euro avec cette équipe de France et représenter mon pays, donc voilà, beaucoup de fierté.
Comment vous l'avez vécu? Vous étiez devant votre télé avec vos proches?
Ouais, exactement. J'étais chez moi avec ma famille, mon représentant, ma femme, tout simplement. Et voilà, j'ai vu aussi beaucoup d'émotions et de fierté dans les yeux de tout le monde. Donc c'est d'autant plus de joie pour moi, tout simplement.
La joie de Léo Dubois, le latéral de l'Olympique Lyonnais, joint pour Europe 1 par Julien Froment. Et puis notez que Benjamin Pavard jouera lui aussi l'Euro avec les Bleus. Le défenseur du Bayern de Munich sera demain matin l'invité du journal de 8h sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30.
Le compte à rebours va bientôt arriver à son terme. Dans une dizaine d'heures maintenant, nous pourrons à nouveau savourer un café en terrasse, demander quel est le menu du jour, bref, retrouver notre art de vivre à la française. 7 mois qu'on attendait cela, une éternité aussi pour les professionnels qui depuis quelques jours préparent cette réouverture. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant à Bordeaux, où comme partout en France, on s'est activé aujourd'hui dans les bars et restaurants.
Oui, et demain par exemple ici, place Gambetta, au cœur de Bordeaux, on va de nouveau pouvoir s'installer sur l'une des terrasses emblématiques de la ville, celle du Clémenceau, appartenant au groupe que gère David de Freitas.
Capacité de terrasse à 50%, 120 personnes en terrasse. Minimum 1 mètre, 1,50 mètre d'espace entre les tables. Si on calcule brièvement le mois de mai, il ne va pas être non plus ultra rentable. Mais je ne vous cache pas que le fonds de solidarité est maintenu au mois de mai comme si on n'avait pas ouvert. Il faut ouvrir pour les équipes, je le fais pour les équipes, pour les clients. Nous, on a ouvert de 11h30 à 21h en non-stop, service continu. Les gens sont prêts à réserver à 11h30, venir à manger à 15h.
Dans ce seul restaurant, ce sont 28 employés qui vont revenir travailler demain, reprise d'activité que Laurent Tournier, le président de l'Union des hôteliers et restaurateurs en Gironde, encourage, en tout cas dès lors que l'ouverture est possible.
Il y a 40% des restaurateurs qui ont une terrasse. Sur ces 40%, il y en a un certain nombre, alors difficilement quantifiable, qui ne vont pas ouvrir. Soit les terrasses sont beaucoup trop petites, remettre un modèle économique avec le personnel, la marchandise à commander, avec une météo qui peut être un peu capricieuse. On peut entendre que ce ne soit pas les manières dont on a envie de reprendre l'activité. Pour certains, même sachant ça, ils vont quand même prendre le parti de réouvrir pour remettre un petit peu la machine en marche.
Une table, une chaise, du soleil, du bonheur et l'addition, peut-on lire sur l'ardoise d'une brasserie bordelaise, de toutes ces promesses, je vous laisse deviner celles qui demeurent malheureusement incertaines pour demain.
La météo, évidemment, merci Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Et ce temps capricieux qu'Anissa Haddadi nous détaillera dans quelques minutes pourrait bien faire les affaires des théâtres, musées et cinémas qui, avec les commerces, vont eux aussi rouvrir demain. Fini la culture en boîte, les films cantonnés uniquement à la télé ou sur Netflix. Après 200 jours d'inactivité, les salles obscures vont enfin entrevoir la lumière. Jean-Luc Boujon, vous êtes rendu dans un multisalle en périphérie de Lyon, à Brignais, où ce soir, tout est presque prêt.
Oui, ce sont les derniers préparatifs au CGR de Brignais, le deuxième plus gros cinéma de l'agglomération. On installe boissons et confiseries dans les rayons, on remplit le bac à pop-corn et surtout, on finit de nettoyer les 15 salles du multiplex, explique Florian Renault, le directeur adjoint.
On a bien nettoyé, là, on a nos équipes de ménage qui peaufinent et qui finissent.
Et quoi, il y avait plein de poussière?
Bah, ça prend un petit peu la poussière, même si on l'entretient. C'est vrai qu'un cinéma qui vit pas, malheureusement, quelques petites toiles d'araignée à retirer pour que tout soit nickel. Mais sinon, la salle est prête, les films sont dans les serveurs et on n'a plus qu'à voir des spectateurs et appuyer sur play.
Voilà, donc le play, ce sera demain avec la première séance programmée à 10h30, une quinzaine de films à l'affiche ici et pas mal de monde attendu, croit savoir le responsable, même si la jauge sera de 35% dans chaque salle, ce qui équivaut à un siège sur trois. Mais peu importe pour Florian Renault, ce qui compte, c'est de pouvoir à nouveau accueillir le public.
Il y a quand même une attente des gens, ils ont besoin de sortir. On a tous été fermés, moi je crois que j'ai plus aucune série Netflix à regarder. Donc c'est vrai que les gens ont besoin de sortir, donc il y a un réel besoin de ressortir au cinéma, surtout qu'en plus on revient quand même avec une programmation qui est assez diverse, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc nous on est super ravis de réaccueillir les spectateurs.
Voilà, alors parmi les films les plus attendus, on pourra voir ici Adieu les cons, le dernier Dupontel aux 7 Césars, ou Demon Slayer, un film d'animation japonais annoncé comme le phénomène de l'été.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Notez que pour les cinémas, mais aussi les restaurants et toutes les autres activités qui redémarrent demain, il n'y aura pas de dérogation au couvre-feu. Il va certes passer de 19 à 21 heures, mais la règle est claire, vous devrez devrez être rentré chez vous avant son entrée en vigueur. Cette étape du déconfinement va s'accompagner par endroits d'un petit bonus. Plusieurs préfectures ont annoncé aujourd'hui que le port du masque en extérieur allait devenir facultatif. Ce sera le cas dès demain dans l'Ardèche, où il sera possible de sourire à l'air libre partout, sauf dans les centres-villes. À partir de jeudi, les habitants de la Creuse pourront en faire de même. Des masques qui tombent ici ou là, des commerces à nouveau accessibles, voilà qui doit inquiéter plus d'un épidémiologiste. Sommes-nous en train d'aller plus vite que l'épidémie? On aura la réponse à cette question d'ici deux semaines. En attendant, sur le plan sanitaire, Victor Delande, tous les indicateurs sont au vert.
Oui, avec un taux d'incidence de 140 au niveau national, l'épidémie recule bel et bien. Dans certains départements comme le Gers, la Charente-Maritime ou la Corse, il y a même moins de 50 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Dans les hôpitaux, la pression diminue également avec de moins en moins de patients Covid en réanimation. Mais attention, prévient Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, il ne faut pas crier victoire trop vite.
Il va falloir raison garder parce que l'épidémie n'est pas terminée, qu'on va déconfiner à un taux de malades hospitalisés plus important que les deux derniers déconfinements et surtout qu'on a un véritable challenge qui est de poursuivre cette dynamique d'accélération de la vaccination qui est le seul remède pour sortir durablement des différentes vagues successives qu'on a rencontrées.
Selon lui, il faut profiter de ce recul de l'épidémie pour multiplier les spots publicitaires favorables à la vaccination, inciter les jeunes et pourquoi pas ouvrir la vaccination à tous avant le 15 juin. Le coronavirus nous offre un répit, abonde un épidémiologiste. Il faut en profiter pour prendre une longueur d'avance et amplifier la vaccination.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
L'actualité ce soir, c'est aussi le Proche-Orient. Les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent dans la bande de Gaza, tandis que le Hamas continue de tirer des roquettes en direction de l'État hébreu. Elles ont fait deux nouvelles victimes aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une quatrième fois en urgence, mais les États-Unis refusent toujours une déclaration appelant à une cessation des violences. La France, quant à elle, demande ce soir à Israël de garantir l'accès rapide et sans entraves à Gaza après la fermeture aujourd'hui d'un point de passage de l'aide humanitaire. Quant à l'Union européenne, elle réclame un cessez-le-feu. Autant d'appels qui restent pour l'heure sans effet. Conséquence du trop long désintérêt de la communauté internationale pour la question israélo-palestinienne. C'est ce qu'a reconnu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
Ce qui se passe montre que l'idée qui avait été caressée pendant un temps par certains, qu'on pouvait simplement ignorer le conflit du Proche-Orient, en pensant que le temps arrangerait les choses, cette idée-là disparaît. C'était une vue de l'esprit. Une des raisons de la situation dramatique d'aujourd'hui, c'est parce que précisément, il n'y a pas de perspective d'un processus politique.
Jean-Yves Le Drian au micro européen de Jean-Sébastien Soldaini. C'est un record. Jamais autant de migrants étaient entrés illégalement en une seule journée en Espagne. Ça s'est passé hier dans l'enclave de Ceuta où au moins 8000 personnes, dont de nombreux enfants, ont débarqué depuis le Maroc voisin. Ils sont arrivés par mer ou par terre et certains même à la nage. Henri de Laguerry, vous êtes notre correspondant en Espagne où le gouvernement a même dû faire appel à l'armée.
Oui, et ce soir, un calme très relatif est revenu à Ceuta, la plage d'El Tarajal à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Théâtre de cette arrivée massive de migrants hier et ce matin a été évacuée par l'armée espagnole. Et toute la journée, les militaires ont renvoyé les migrants côté marocain. La majorité sont originaires de ce pays, mais il y a également des subsahariens, près de 3000 d'entre eux ont été expulsés. En 24 heures, dans ce petit bout d'Europe, en Afrique, on assistait à une marée humaine sans précédent, facilitée par la passivité des forces de l'ordre marocaines. 8000 personnes seraient passées, dont 2000 mineurs. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s'est déplacé en urgence à Ceuta.
L'intégrité territoriale de l'Espagne, ses frontières qui sont aussi les frontières extérieures de l'Union européenne et surtout la sécurité de nos compatriotes seront défendues par le gouvernement espagnol avec tous les moyens nécessaires en collaboration avec nos partenaires européens.
La police marocaine a laissé faire car Rabat est très en colère contre Madrid. Depuis qu'on a appris que le leader des indépendantistes Sahraoui du Front Polisario était hospitalisé en Espagne, les actes ont des conséquences, a reconnu l'ambassadrice du Maroc à Madrid. L'Espagne voit dans cette déclaration la preuve que le Maroc exerce un chantage à l'immigration, même si ce soir, les forces de l'ordre marocaines sont de nouveau déployées à la frontière.
Merci Henri de Laguerry, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Retour en France avec ce rendez-vous qui sera très scruté demain devant l'Assemblée nationale. Des milliers de policiers vont exprimer leur ras-le-bol après les meurtres d'Éric Masson et de Stéphanie Monfermé. Un rassemblement où seront présents également de nombreuses personnalités politiques. Il y aura le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi, entre autres, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, et Jordan Bardella du Rassemblement national. En revanche, aucun membre de la France insoumise ne se rendra à cette manifestation de revendication corporative telle que la qualifie Jean-Luc Mélenchon. Le parvis de Notre-Dame de Paris, de nouveau, interdit au public. L'analyse des derniers prélèvements a mis au jour des concentrations de poussière de plomb supérieures au niveau habituel, conséquence de l'incendie qui a ravagé la cathédrale il y a un peu plus de 2 ans. À défaut de pouvoir admirer Notre-Dame de près, les férus de culture pourront toujours se rendre dans l'un des 200 et quelques musées parisiens. La capitale, qui va d'ailleurs en compter un nouveau samedi, installé dans l'ancienne bourse de commerce. Un musée signé François Pinault, le milliardaire breton, va y présenter une partie de sa magnifique collection d'art contemporain qui compte 10 000 œuvres, Diane Chenouda.
Oui, avec une première œuvre forte sous l'immense coupole de verre, dans la rotonde baignée de lumière, une œuvre symbole du temps qui file, la réplique d'une grande statue de la Renaissance qui est en fait une gigantesque bougie qui va se consumer au fil des mois. Des sculptures, dessins, photos, vidéos, installations sonores et lumineuses, oui, plusieurs centaines de pièces à découvrir et surtout beaucoup de peintures. Jean-Jacques Ayagon, le conseiller de François Pinault.
La peinture, c'est sans doute le genre qui est le plus accessible au plus grand nombre. D'autre part, beaucoup de ces peintures se réfèrent à des thèmes figuratifs et donc à des thèmes facilement compréhensibles par chacun.
Oui, des œuvres de notre temps qui parlent à tous, confirme Martin Bétheneau, le directeur de la Bourse de Commerce.
Je crois que l'un des messages de cette collection, c'est que l'art peut parler à tout le monde. Les œuvres d'aujourd'hui sont en prise directe avec les problématiques de notre temps, avec les questions politiques, les questions sociales, les questions raciales, les questions de genre. L'art contemporain, ça parle à tout le monde parce que ça parle de ces sujets qui sont le quotidien de tout un chacun.
Un nouveau temple de l'art, idéalement placé au cœur de Paris, entre le Centre Pompidou et le Louvre, qui suscite déjà beaucoup d'intérêt. Tous les week-ends sont complets jusqu'à fin juin.
Diane Chenouda du service Culture d'Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, avec demain, malheureusement, une journée encore instable.
Et oui, ça continue encore et encore, Julien, demain, avec beaucoup d'averses le matin sur la moitié nord, des averses accompagnées de coups de tonnerre. Les averses toucheront encore presque toute la France demain, dès le début de la journée. La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le quart sud-est, ces régions auront droit, elles, à un temps calme et ensoleillé pour ce deuxième déconfinement. Vous allez, vous, pouvoir profiter des terrasses. Le vent reste sensible, attention, dans le sud, avec le mistral qui se lève demain et le vent d'ouest qui souffle toujours jusqu'à 80 km/h. Au fil des heures, les averses deviennent de plus en plus nombreuses sur l'ensemble du pays. Les orages éclatent sur toute la moitié nord de la France, jusqu'en Auvergne. Le golfe du Lion, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, elles seront sous le soleil. Les températures, elles sont fraîches encore demain matin avec 0 à 3 degrés dans l'Est. Nous aurons 4 à 15 degrés sur l'ensemble du pays. C'est dans le sud, au bord de la Méditerranée qui fera le plus doux avec 15 degrés à Marseille. Et puis dans l'après-midi, comptez 12 degrés à Rodez, 14 à Saint-Étienne, 15 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 16 à Bordeaux, 18 degrés à Lyon, 20 à Carcassonne et Ajaccio, 22 degrés pour Nice et Montpellier. Et la maximale est prévue pour la cité phocéenne avec 23 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview écho d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street reste encore prudent ce soir en gardant un œil sur les indices d'inflation aux États-Unis.
Ça baisse encore légèrement, ça baisse quand même, moins 0,7 sur le Dow Jones, 34 060 points, moins 0,56% sur le Nasdaq, 13 303 points. L'inflation accélère nettement depuis quelques semaines aux États-Unis avec la hausse des matières premières en particulier en vue de la sortie de crise sanitaire. Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, considère que la situation est transitoire, mais surveille quand même de très près les indicateurs. Selon ses dernières déclarations, il y a quand même un risque et donc ça baisse sur les valeurs de technologie comme Google, moins 1%, Facebook, moins 1,6%, baisse aussi d'Intel, moins 0,7%, Apple, moins 1%, $125. Il y a quand même Tesla qui résiste, qui est stable à $579, Cisco inchangé aussi, $53. Le pétrole revient du coup un cran en arrière, moins 1,2%, $65,60 le baril. L'euro remonte un petit peu, 1,22,20 face au dollar.
La Bourse de Paris a terminé quant à elle en légère baisse dans une ambiance calme.
Oui, très calme, hein. Moins 0,2%, 6353 points sur le CAC 40. Le CAC qui a quand même dépassé en matinée les 6400 points, mais ça n'a pas tenu. Il y a eu quelques déceptions avec Iliad en particulier. La maison mère de Free perd ce soir 10%, €136,40. Le groupe a suspendu ses objectifs annuels de cash flow en raison de l'accélération de ses investissements dans la 5G qui coûte très cher. Ça fait désordre sur le marché. Iliad en baisse de 10%. Quelques grosses valeurs industrielles ont reculé comme Bouygues, moins 1% avec Nexans, avec Air Liquide ou Safran qui revient à €121.
Exception du jour, le tandem TF1-M6 a progressé après l'annonce du rapprochement des deux groupes médias.
Oui, le secteur des médias s'est enflammé avec cette opération. Avec TF1 donc qui gagne 7%, €8,95. M6 plus 4%, €18,24. Un rapprochement vu d'un bon œil en bourse. La bourse qui redoute surtout la concurrence venue de l'étranger avec les plateformes comme Netflix évidemment, ou les GAFA comme Google, Amazon ou Apple. Donc l'union fait la force et c'est bien reçu en bourse. TF1 plus 7%, M6 plus 4%. Ailleurs, le DAX à Francfort termine stable. Pas beaucoup de variations en Europe. Londres est un changé. Madrid plus 0,3%, le CAC 40 moins 0,2%, 6353 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à jeudi puisque demain grande soirée foot sur Europe 1, finale de la Coupe de France entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Nicolas Richer.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Columbus Café. Alors si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est tout simple. C'est que ça y est, c'est une forme de libération demain. Les terrasses des cafés justement vont pouvoir rouvrir. Alors c'est une petite réouverture, demi-jauge avec un couvre-feu qui est repoussé à 21h à compter de demain soir. Tout simplement, première question. Comment vous vous êtes organisé pour demain matin, Nicolas Richer ?
Alors premièrement avec le sourire, hein, parce que c'est quand même, ça fait quelques mois que l'on est entre deux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec une bonne nouvelle pour demain avec un plan sur les trois enfin, sur les le prochain mois en tout cas qui est assez clair, ce qui nous a permis de nous organiser. Le premier, en fait, il y a deux sujets sont assez épineux dans ce cadre de réouverture, parce que certains points de vente sont fermés depuis plus d'un mois, voire deux. C'est de remobiliser d'une part tous les collaborateurs sur les exploitations. Et quand on a aujourd'hui 50 points de vente qui sont ouverts sur les 200, donc 150 points de vente fois 8 ou 10 personnes, ça fait un peu de monde à remobiliser. Et
petite parenthèse là-dessus, vous le ressentez, vous, cette difficulté de vos collaborateurs à revenir ?
On le ressent un peu moins du fait qu'on n'a pas de service du soir en tant que tel, en tant que coffee shop, mais on le ressent aussi parce qu'il y a des personnes, pas des collaborateurs, qui ont découvert d'autres univers que la restauration. La restauration étant un métier difficile physiquement, donc effectivement, on peut découvrir d'autres choses. Mais c'est aussi très plaisant. Donc, on a une bonne fidélité de la part de l'ensemble des collaborateurs. Non, c'est plutôt, il y a du recrutement, c'est vrai. Avant crise, on estimait sur la restauration en France qu'il y avait 100 000 postes vacants. Aujourd'hui, on est plutôt sur 200 000 postes vacants. Donc, le bon restaurateur, enfin le bon barista est une denrée rare et précieuse. Mais on sera au complet en tout cas demain.
Alors, vous serez au complet demain. Comment vous avez réussi à faire ces fameuses demi-jauges sur les terrasses ?
Alors, ça, je vais vous dire, je ne suis pas le meilleur là-dessus, parce qu'il y a des demi-jauges, et puis il y a aussi, en dessous de 12 places, on n'a pas cette contrainte de demi-jauge. Donc, on fait au cas par cas, et dans la mesure du possible, on installe des cloisons entre les tables. Mais c'est plutôt, en tout cas, ce qui se dessine aujourd'hui, de ce que je sais, c'est plutôt une réduction de 50% des nombres de places assises globalement.
C'est rentable de rouvrir dans ces conditions ?
Ouais, c'est compliqué, mais on est tellement content en fait de se remettre au travail et de pouvoir à nouveau accueillir des clients que on est tous, en tout cas, on est tous très motivés par ça et on passe sous cette contrainte.
Comment vous avez vécu cette crise ? Parce que vous le disiez, vous avez une partie de vos magasins qui ont dû fermer, vous en avez une partie qui sont restés ouverts. Quelles leçons tirez-vous de cette crise ?
La première leçon, c'est que rien n'est acquis. Et dans le commerce, ça bouge encore plus vite peut-être que dans d'autres secteurs. On est encore plus sensible puisque c'est du au jour le jour, du quotidien. Donc on a très vite, on s'est dit, faut qu'on se remette en question, même si on avait tous les indicateurs au vert avant la crise. On s'est dit, ça peut changer très vite. Et on en a profité pour développer des services que nous n'avions pas mis en avant, comme la livraison par exemple, ou redévelopper aussi, informatiser ou digitaliser plus l'entreprise. Donc on s'est organisé pour se dire comment faire si jamais cette crise dure plus longtemps, et puis surtout écouter et observer les signaux faibles sur l'évolution des tendances de consommateurs.
Mais prenons l'exemple peut-être de la numérisation dont vous parlez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut commander son café, son croissant directement sur Internet ou en ligne ?
Ouais, pas sur 100% des Columbus Café, mais sur la plupart. Et c'est en tout cas un service que l'on a lancé au mois de mai 2020, donc il y a un an, et que l'on va développer sur toute la France.
Par ailleurs, le télétravail pourrait sûrement généraliser à la rentrée. Peut-être que les salariés auront plutôt 2 jours de télétravail contre 1 avant cette crise. Ça veut dire moins de monde sur les lieux de travail pour vous, où vous êtes parfois installé. Comment vous vous préparez à cette évolution de la consommation ?
Alors là, en ce qui concerne le télétravail, pour moi, je vous rejoins, c'est assez évident que la crise va changer le comportement des consommateurs. Le télétravail y contribue. C'est-à-dire que le 8h, 17h, avec une pause pour le déjeuner, il faut l'oublier pour une partie, en tout cas, des travailleurs. Ce qui veut dire que pour nous, on distingue quand même 2 cas de figure, si je tire un trait un peu large, entre les grandes villes et puis des villes de taille moyenne. On a vu, nous, pendant la crise, que les villes de taille moyenne, finalement, les habitudes assez classiques se conservent, ont été mieux conservées. Et en revanche, dans les grandes villes, l'impact du télétravail et puis de la pandémie a été beaucoup plus important. Donc nous, on a réfléchi en se disant, on va, sur des villes comme Paris, réfléchir à des implantations qui sont plutôt en périphérie ou en banlieue, là où habitent les gens, avec des espaces un peu plus grands, de façon à proposer des lieux où les gens puissent se poser pour travailler en dehors de leur domicile.
En tout cas, ce qui est étonnant, vous avez aujourd'hui 200 points de vente et vous avez prévu, là, sur l'ensemble de l'année 2021, d'en ouvrir en tout 47 en plus. C'est-à-dire que vraiment, vous croyez au développement de ce café, notamment en mobilité, puisque là, on parle de la réouverture des terrasses, mais chez vous, on consomme aussi beaucoup en mobilité.
Oui, absolument. On y croit, et ce qui me rassure aussi, ce qui me donne confiance dans l'avenir, c'est que les partenaires franchisés avec lesquels on travaille y croient, puisque ce sont, pour plus de la moitié, ce sont des partenaires franchisés en place qui ouvrent un second ou un troisième Columbus Café. Et ça, c'est peut-être le fruit de notre expérience passée qui leur permet d'avoir confiance dans l'avenir.
Eh bien, merci beaucoup et bonne chance demain pour la réouverture des terrasses. C'était Nicolas Richer, le PDG de Columbus Café. Merci d'avoir été notre invité. Nous, on ne se retrouve pas demain, puisque demain, grande soirée de football à suivre sur Europe 1. Rendez-vous donc jeudi, 22h20.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouvera en revanche demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous vous intéresserez évidemment à ce grand jour pour les restaurants qui vont enfin pouvoir rouvrir leurs terrasses. Vous en parlerez avec Victor Luger, le fondateur du groupe de restaurants Big Mama. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux, qui sont nombreux, sans surprise, à mettre le focus sur la deuxième étape du déconfinement demain. Soif de liberté, peut-on lire à la une de 20 minutes, terrasse, culture, commerce, un air de liberté enfin retrouvé, titre pour sa part Ouest France, avec pour illustration la patronne d'un bar en train de placer ses tables en extérieur. Des professionnels partagés entre excitation et appréhension, note le journal régional. Il y a bien sûr l'incertitude de la rentabilité avec la jauge à 50%, mais aussi la météo capricieuse ces derniers temps. Il va faire frisquet, oui, d'accord, et alors, ajoute Denis Domain dans La Nouvelle République. L'eau qui nous sera envoyée du ciel est bénie, et tant pis si elle noie un peu le premier verre pris en terrasse avec les potes, les chéris, les mioches, le chien ou la mamie. Nous porterons un toast collectif et unanime à cette renaissance, ce vrai retour à la vie, écrit l'éditorialiste. Parole de flic, colère bleue, c'est le titre à la une de Libération qui est allé à la rencontre de jeunes recrues à l'occasion de la manifestation manifestation prévue demain devant l'Assemblée nationale. Un endroit qui n'est pas anodin, note Dov Alphond, vu que la principale revendication des policiers, c'est plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. On pouvait s'attendre à une remontrance du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur, rappelant aux syndicats policiers l'importance de la séparation entre les pouvoirs. Mais c'était sans compter l'opportunisme politique sans limite de Gérald Darmanin, qui a confirmé sa présence à la manifestation, assène le directeur de la rédaction de Libé. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Exactement. Et on se retrouve tout à l'heure pour votre flash à 23h.
À tout de suite.